Bienvenue sur le podcast Moana. Je suis Terry, maman de 3 enfants, l'aîné Noah qui a 10 ans, la cadette Ayana qui a 6 ans et notre petite dernière Théa qui a tout juste 6 mois. J'élève cette joyeuse fratrie avec mon mari Simao. Je travaille depuis un peu plus de 6 ans dans le domaine de l'automobile et à côté, je me passionne pour plein de domaines comme la décoration d'intérieur, l'immobilier et la parentalité. C'est d'ailleurs de ce dernier dont je vais vous parler ici sur ce podcast, qui est une sorte de cadeau que je me fais pour célébrer mes 10 ans de maternité. Moana est le nom que j'ai souhaité donner à mon blog lors de sa création il y a quelques mois. Il s'agit en fait de la réunion de deux mots, moine qui signifie enfant et na qui signifie maman. Ces deux mots sont un petit clin d'œil que je souhaite faire à mes racines, puisqu'ils ont été traduits dans ma langue paternelle, l'ewondo. Une des ethnies de mon pays d'origine, le Cameroun. Pour ce podcast, j'aurai l'occasion de recevoir des mamans et des papas qui viendront partager avec nous leurs expériences parentales. Et oui, des papas aussi. En effet, je trouve que ces derniers sont encore peu interrogés sur la question de la parentalité. Cela me tenait à cœur de pouvoir recueillir aussi leurs expériences et anecdotes sur le sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, je reçois Stéphanie. J'ai découvert Stéphanie sur Instagram. Elle y partage régulièrement ses aventures quotidiennes d'entrepreneur pour l'épanouissement féminin. Mais c'est aussi la maman d'une petite Slaine qui a 7 ans. D'ailleurs, elle revient sur sa grossesse et nous livre son témoignage. En octobre dernier, Stéphanie a décidé d'aller vivre au Cameroun avec sa fille. Justement, elle nous raconte quelles ont été ses motivations et nous décrit un peu leur nouveau quotidien. C'est le témoignage d'une jeune maman ambitieuse et désireuse de faire imprégner ces deux cultures à sa fille. Bonne écoute.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Bah écoute, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi de m'avoir invité.
Ouais, je suis vraiment contente parce que ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux sociaux et j'avoue que tu faisais partie des personnes que je voulais absolument interviewer parce que ton histoire, je trouvais est hyper intéressante et vraiment je suis contente que tu sois là aujourd'hui.
En tout cas, c'est un honneur pour moi d'avoir été invitée et c'est avec le plus grand plaisir que je vais partager ma petite histoire.
Merci. Ok, bah écoute, moi pour démarrer donc chaque podcast, je demande toujours à mon invité s'il a choisi en fait une citation qui pourra illustrer donc l'histoire qu'il va nous raconter. Est-ce que du coup tu as une citation que tu souhaiterais partager avec nous?
Une citation, oui, en fait, c'est une phrase que je me dis souvent, c'est que quand on raconte, si tu arrives au stade où tu racontes une histoire au passé, ça veut dire que l'histoire, elle est définitivement derrière toi, en fait. Donc c'est un peu ça. Donc, ce que je vais raconter aujourd'hui, je vais le conjuguer au passé parce que, voilà, c'est derrière moi, c'est un passé lointain, voilà. Donc,
Ok, ok.
Voilà, bah, ça rassure dans le sens où on se dit qu'éventuellement, s'il y a des situations qui ne sont pas éternelles.
Exactement. Voilà. Bah, écoute, j'ai hâte. J'ai hâte. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux donc te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais?
Bien sûr. Alors moi, c'est Stéphanie Tam. Stéphanie, mon prénom. Tam, mon nom de famille. J'ai 28 ans. Je suis d'origine camerounaise. Bon, je vais avoir 29 ans au mois de juin. Donc, je suis encore dans ma 28e année. Et oui, donc je vis sur Paris depuis plus de 10 ans déjà. Mon parcours scolaire, j'ai une licence en marketing. Et depuis 2018, je suis entrepreneur, je suis consultante en épanouissement féminin. Consultante dans le sens où je donne des avis, je donne des consultations sur les sujets qui concernent le féminin en général. Ça peut être la vie de femme, la sexualité et plein d'autres sujets. Voilà. Et bah, je pense que la partie de ma vie qui me ramène le plus à faire cette interview, c'est que je suis l'heureuse maman d'une petite fille de 7 ans, voilà, qui s'appelle Slane. Ça n'a pas une signification en particulier, mais bon, elle s'appelle Slane.
Ok, bah
Voilà.
écoute, Slane, c'est très joli comme prénom.
C'est tout très original, d'après ce qu'on me dit souvent.
c'est vrai,
Donc,
je confirme.
c'est ce que je voulais pour elle.
Ok, bah écoute, merci pour cette petite présentation de toi. Et ben, justement, peux-tu nous parler de Slane et surtout de comment est-ce que tu as appris que tu attendais Slane et comment est-ce que tu as vécu cette grossesse?
Alors, Slane, ce n'était pas du tout un enfant désiré, dans le sens où je ne la voulais pas, enfin, je ne voulais pas d'enfant à cette période-là de ma vie. Comme j'ai dit, j'ai 28 ans, elle a 7 ans. Donc, je l'ai eue relativement jeune. J'avais 20 ans quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais dans l'année de mes 20 ans. Donc, j'ai appris que j'étais enceinte en avril 2013, en avril 2013, pardon. Et j'allais avoir 21 ans, justement, en juin 2013. Et je préparais donc mon bac plus 2. Je préparais mon bac plus 2. Donc, j'ai appris que j'étais enceinte à 20 ans. Et à cette période-là, je vivais chez ma grande sœur. Financièrement, ce n'était pas ça. Administrativement même, ce n'était pas trop ça. Bref, je n'avais rien de matériel. Enfin, je n'avais pas grand-chose pour pouvoir accueillir cet enfant-là. Donc, il a fallu, du coup, en informer mes sœurs, qui étaient les personnes qui s'occupaient de moi à cette période-là. Mon père et ma mère au Cameroun, vu qu'ils ne vivent pas avec moi. Et aussi informer l'auteur-compositeur de tout ça aussi. Donc,
Quand même.
voilà. Donc, voilà, quand même, c'est la moindre des choses. Donc, il faut savoir que moi, je n'étais jamais tombée enceinte. Je n'étais jamais tombée enceinte. C'était ma première grossesse. Et du coup, c'était un choc pour moi, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai informé l'auteur-compositeur de son forfait. Et il a accueilli. On était choqués quand même. Et comment dire? Oui, et j'ai aussi informé ma sœur, du coup, chez qui je vivais. J'ai aussi informé mes autres sœurs par la suite. C'est vrai que c'était pas une nouvelle qui était bien accueillie, quoi, parce que, OK, c'est un heureux événement, mais comme je disais, j'étais pas du tout indépendante sur aucun plan. Et j'étais en train je poursuivais toujours mes études. Donc, il y avait l'inquiétude, il y avait le fait que, voilà, on comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Donc, c'était vraiment pas une période très agréable, en fait. Voilà. Donc, c'est comme si j'annonçais, je sais pas moi, que je partais en guerre ou quoi que ce soit. En fait, ça allait être la même chose, quoi. Donc, la nouvelle n'était pas bien accueillie et du côté de mes sœurs et aussi quelques jours plus tard du côté de son géniteur qui m'a fait savoir qu'il était préférable pour lui que j'avorte. Voilà. Donc, oui. Donc, je tiens à préciser ça. Donc, il était préférable pour lui, ça l'arrangeait. C'était plus pour lui
C'était plus en lui,
que
pour
pour
lui.
moi, en fait, dans mon intérêt. Voilà. Donc, j'étais tellement abasourdie, je me suis dit, attends, ça fait même pas un mois que je suis enceinte, ça fait même pas une semaine que j'ai annoncé à toute cette personne-là que je suis enceinte, mais c'est comme
Incroyable.
si le ciel me tombait sur la tête, quoi. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que, bah, écoute, vu que c'était pas quelque chose qui était prévu, peut-être vaudrait mieux qu'effectivement que je m'en débarrasse. Et j'ai fait les démarches nécessaires pour au planning familial et tout ça. Je me suis documentée. Et puis, au stade où j'en étais de ma grossesse, je pouvais encore avorter de façon médicamenteuse. Voilà, donc c'était
D'accord.
vraiment, vraiment au
C'était
début.
très tôt, oui.
Et donc, du coup, bah, effectivement, j'ai quand même pris rendez-vous. Je me suis dit que d'ici le rendez-vous pour procéder à l'avortement, peut-être que, je sais pas ce qui se serait passé entre-temps. Peut-être le papa, il serait revenu au bon sentiment. J'en sais rien du tout. Je sais plus si c'est que j'avais informé à mes sœurs que je comptais prendre cette décision-là. Mais vraiment, plus la date approchait, plus ça, j'étais angoissée, plus je me suis rendu compte que ce n'était pas non plus une décision importante, en fait. Et je n'étais jamais tombée enceinte. Donc, franchement, c'était plein d'informations. J'étais vraiment perturbée. Et au final, le jour du rendez-vous est arrivé. Je ne suis pas partie. Je ne suis pas partie. Je sais même pas si j'ai appelé pour annuler le rendez-vous. Mais en tout cas, je ne suis pas partie. Et ensuite, j'ai encore essayé de prendre rendez-vous. J'ai encore pris rendez-vous et je ne suis pas partie encore la fois d'après. Donc, ce qui fait qu'après, au final, je suis restée avec cette grossesse-là jusqu'à son terme, malgré moi. Voilà. Malgré le fait que je n'ai pas eu le courage de tirer, en fait.
C'est ça,
Voilà.
parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu, enfin, c'est pas que, enfin, tu me dis malgré toi, mais quelque part, j'ai l'impression qu'inconsciemment, tu voulais pas vraiment le faire aussi, quoi.
Non, parce que je me suis dit, même si c'est que l'autre papa, enfin l'autre papa, l'autre personne, il veut pas, c'est pas comme si, je veux dire, c'est pas comme si je l'avais, j'aimais cette, enfin, j'aimais cette personne-là, j'avais de l'affection pour cette personne-là, et je me suis dit, c'est pas comme, j'ai relativisé, je me suis dit, c'est pas comme si je ne voulais pas avoir, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais finalement, je l'ai gardé. Malgré moi, je l'ai gardé quand même. Parce que de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de raisons qui me poussaient à l'enlever, quoi. Je me suis dit, la pauvre, en fait, elle a rien demandé. En même temps, c'est trop facile d'aller avorter. J'aurais pu prendre mes précautions. Cette personne-là aussi, elle aurait pu prendre ses précautions. Et si je l'enlève après, j'ai plus d'enfants. OK. Enfin,
Ouais, tu
voilà.
as
Donc,
eu vraiment un certain nombre de questionnements qui sont venus à ce moment-là dans ta tête, quoi.
au final, au final, j'ai pas eu le courage d'avorter et je sais, je peux pas dire ce que j'ai eu le courage de la garder non plus. Mais en tout cas, le fait que je ne décide pas, c'est devenu une décision malgré moi, en fait. Donc, et aujourd'hui, elle a 7 ans.
Bah écoute, waouh. Et donc, comment s'est passée du coup alors la grossesse une fois que tu as pris cette décision malgré toi de la garder? Comment ça s'est passé?
Pas eu le soutien de son papa, je n'ai pas eu le soutien de son géniteur, parce que de son géniteur, j'ai pas eu son soutien jusqu'au bout. J'ai pas eu le soutien non plus de toutes mes sœurs. Et j'ai annoncé ça à mon père, j'étais déjà à mon 7e mois de grossesse, quelque chose comme ça. J'ai aussi annoncé ça à ma mère. Bon, vu que de toute façon, je ne pouvais plus avorter, ils avaient plus le choix. Le mieux pour eux, c'est de m'accompagner au mieux, même si ce n'était pas non plus évident pour elle aussi. Comme je disais, ma soeur chez qui je vivais à cette époque-là, elle-même aussi, elle était enceinte de 3-4 mois. Donc, ce qui fait qu'on était deux personnes enceintes dans la maison, quoi. Donc voilà. Donc, au final, quand j'ai pris la décision de garder cette grossesse-là, je me disais peut-être tous les matins quand je me réveillais, je me disais que peut-être que c'est un cauchemar, peut-être je vais me réveiller et puis je vais me rendre compte que j'ai rêvé. Mais toutes les nuits, tous les matins quand je me réveillais, je réalisais que effectivement, j'étais enceinte, quoi. Et j'ai fait un déni de grossesse, c'est-à-dire que je n'acceptais pas le fait d'être enceinte. Je me refusais de me dire que j'étais enceinte. Mais malgré tout, quand même, j'ai fait les démarches pour suivre mes visites prénatales, pour choisir l'hôpital, toutes ces démarches-là qu'il faut faire au final. Mais franchement, c'était avec un grand détachement. Et je me rappelle que la première fois que j'ai vraiment réalisé que j'étais enceinte, c'est la fois où j'ai fait l'échographie de datation où j'ai entendu un cœur battre. J'ai fondu en larmes, je me suis dit, mince, en fait, c'est
C'est
vrai.
réel.
C'est réel. Mais malgré tout, je me suis refusée quand même de me dire qu'il y a un être humain qui pousse en moi. Mais à côté de ça, je me suis dit qu'il fallait quand même que déjà que je parte de chez ma sœur, que je cherche à être dépendante un minimum. Et j'ai réalisé que par rapport à mes études, que je n'avais plus le droit, je devais foncer. Et ici, c'est que j'avais une année pour finir mon diplôme. C'était une année, quoi. J'avais plus le droit, j'avais plus le temps, quoi, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je l'ai dit, je suis tombée enceinte. J'ai su que j'étais enceinte en avril 2013 et je finissais mon année scolaire en juin 2013. J'ai fini mon année scolaire sans problème. Et pendant l'été, j'ai réfléchi au fait s'il fallait que je reprenne mon année parce que c'était justement c'était l'année d'après que je validais, que je présentais mon bac plus 2. Donc, finalement, tout cet été-là, en plus déjà de tous les questionnements que j'avais, au final, je me suis dit que même si c'est que je ne vais pas à l'école, je vais faire quoi en fait? Je ne peux pas travailler. Et puis, je n'avais jamais travaillé, à part mes stages scolaires, je n'avais jamais travaillé de ma vie. Donc, je me suis dit, bah, écoute, tant qu'à faire, c'est un an, je reprends mes études. Franchement, j'ai fait les choses sans trop réfléchir en fait. Et donc, du coup, j'ai repris mon année scolaire. J'ai commencé mon année en septembre. J'étais enceinte, donc j'étais dans un établissement privé. Je me suis inscrite. Quand l'année scolaire a commencé, je me suis rapprochée auprès du directeur pour lui dire que, bah, écoutez, je suis enceinte. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que j'ai le droit d'entrer dans l'établissement, dans cet état-là et tout ça et tout ça? Donc, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais juste que pendant le congé maternité, effectivement, il va falloir faire attention. Ah, bah, après, c'est que je suis de. On va s'adapter en fait à ma situation et tout. Et aussi, il y avait le stage que je devais faire. Et puis voilà. Donc, mon terme, c'était en janvier 2014. Et le stage, c'était en décembre 2013. Et il y avait aussi les vacances. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié avec la société où j'avais fait mon stage l'année d'avant. J'ai expliqué éventuellement ma situation, tout ça. Et Dieu merci pour moi, elle a accepté de me prendre. Et les tâches qu'elle m'a données pour mon stage, c'était des tâches que j'ai faites en télétravail. Donc, c'était super.
Ah
Donc,
oui,
du coup,
tu es
j'avais.
vraiment bien tombé.
Ouais. Donc, du coup, j'avais la période du stage et les vacances scolaires. Et j'ai accouché en janvier. Donc, en janvier, j'accouchais. Et j'ai repris mes études au mois de février.
Ah
Donc, je
ouais.
suis restée. Oui, je suis restée un mois et demi à la maison. J'étais motivée, hein?
Ah non, mais c'est ce que j'entends. Chapeau.
J'étais motivée, j'étais motivée. Donc, ce qui fait que, heureusement encore pour moi, que j'avais une autre de mes grandes sœurs qui était enceinte. Donc, on était trois enceintes. Bon, celle qui était enceinte chez qui je vivais avant, elle avait déjà couché, hein, elle avait déjà couché. Donc, on a couché à un mois d'écart. Donc, ce qui fait que ma sœur qui était enceinte, l'autre sœur qui était enceinte, elle me la gardait pendant que moi, j'allais en cours.
Ah, heureusement qu'on peut compter sur sa famille, hein, sur
Et
certaines
voilà, même
choses.
si on ne vivait pas ensemble, il fallait que le matin, pour commencer je pense, ça commençait à 9 h. Donc, je devais aller déposer la petite, partir à l'école, finir l'école, revenir récupérer la petite, revenir à la maison et tout. Donc, ça n'a pas été évident. Bon, là, je pense que
Ouais.
j'étais pour parler de la grossesse, en fait.
Ah non,
C'est
mais
ça?
oui, c'est ça. Mais ça devait être intense, hein. Franchement, chapeau, hein. Quelle force de caractère.
Intense. En fait, j'avais pas le choix. Je me suis dit déjà que j'ai déjà fait la conne d'avoir cet enfant qui n'était pas prévu. La moindre des choses, si je la garde, c'est que elle arrive dans des conditions, je veux dire,
Ouais, les mieux, les meilleures
dans
possibles.
les meilleures conditions possibles, quoi. Donc, ce qui fait que les 9 mois de grossesse que j'avais, ce n'était pas les 9 mois où. C'est vrai qu'elle grandissait dans mon ventre, mais les 9 mois là pour moi, c'était le timing pour pouvoir arranger au mieux ma situation. Donc, ce qui fait que, Dieu merci, j'ai eu une bonne grossesse médicalement parlant, mais j'ai eu une mauvaise grossesse par rapport à mon entourage, par rapport à ce stress-là, par rapport à toutes les préoccupations que j'avais. Mais côté santé, j'ai pas eu les bobos de grossesse. Non, c'est peut-être à la fin de ma grossesse que oui, effectivement, il y avait la descente d'organes où j'avais des maux d'estomac, tout ça. Mais vraiment, je n'ai pas été alitée, je n'ai pas eu ce genre de problème-là, je n'ai pas eu ça.
Ok.
Voilà.
C'est ce qui
Donc,
t'a quand même,
voilà.
oui, finalement, aidé aussi à pouvoir aller jusqu'au bout sans trop
Donc,
de problèmes.
je ne suis même pas autorisée à tomber malade ou à avoir ce genre de choses, en fait. Et
Voilà.
puis, le ciel ne s'est pas non plus totalement acharné sur moi, quoi. Déjà que j'avais déjà des problèmes pour pour accueillir ma fille, on n'allait pas encore, le ciel n'allait pas encore m'envoyer les maladies, les trucs comme ça, non, quand même. Tant mieux. Donc, okay. J'ai pu, en 2014, j'ai pu accueillir ma fille. Aujourd'hui, je pense que c'est l'une des plus belles décisions, malgré moi que j'ai eu à prendre.
Eh bien, écoute, c'est vraiment beau. Hein. Franchement, au moins de se rendre compte de ça. Mais moi, ce que je retiens vraiment, c'est que tu as... Ouais. T'as pas lâché, quoi. À partir du moment où c'était clair dans ta tête que voilà, tu devais accueillir cet enfant-là, tu as été, tu as foncé. Et puis même, malgré tout, tu faisais tes études, t'as pas arrêté, quoi. Quand on sait que parfois, ça peut quand même pousser à peut-être stopper à ce moment-là, pour se concentrer en fait sur, parce que c'est quand même un état qui est pas, c'est pas rien, c'est un chamboulement dans ta vie, quoi.
Donc, un chamboulement dans beaucoup de choses, et surtout rajouter à ça le fait que tu es seule, rajouter à ça que le papa n'est pas là, rajouter à ça plein de choses. Il y a eu les moqueries, il y a eu plein de trucs. Mais je me suis dit, en fait, c'est comme si j'avais pas le choix. C'est pour ça que ça m'a fait, en fait, ça a réveillé en moi un caractère que je m'ignorais, en fait. Mm-hmm. Et du coup, aujourd'hui, avec du recul, je rends grâce à cette épreuve-là que j'ai eue dans ma vie. Je ne sais pas si c'est que le père de la petite, s'il avait été présent, je pense que j'aurais été une grosse feignasse, je me serais reposée totalement sur lui. Alors que là, aujourd'hui, grâce à cette épreuve-là, franchement, je suis une fonceuse, en fait.
Eh ben, voilà. Écoute, je pense que ça va. Je pense que ça va donner vraiment le ton là pour la suite. Je découvre aujourd'hui, mais quand je t'ai contactée, c'est parce que bon, j'ai vu effectivement que tu avais une fille qui a d'ailleurs le même âge que ma deuxième fille. C'est marrant, parce qu'on est à la même année. Et j'ai vu dernièrement, donc lors d'une vidéo que tu as postée donc sur YouTube, parce que on l'a pas dit, mais tu fais quand même des vidéos YouTube aussi, où justement tu parlais de ton retour au Cameroun avec ta fille. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, me dire un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là de retourner vivre là-bas, et comment ça s'est passé surtout?
Alors, rentrer au Cameroun, ça n'a pas été dans mes plans, ça n'a jamais été dans mes plans, jusqu'à il y a un an où je suis partie au Cameroun. Je pense qu'en l'espace d'un an, je suis allée peut-être deux fois et tout ça. Donc, finalement, je me sentais de mieux en mieux là-bas. Et puis, mon père a été malade en 2020. Et il y a plein d'éléments, je ne pense pas que je peux citer tout ici maintenant, mais au final, j'avais quand même envie d'être dans un nouvel environnement, en plus par rapport à tout ce qui est Covid, tout ça, où ici il y a eu le confinement et tout ça. Donc je me suis dit que ce serait peut-être l'opportunité pour moi et pour ma fille, du coup, de partir, d'expérimenter ça, d'aller, de rester avec la famille. C'était plus ça, en fait, de rester avec la famille et peut-être sur place, développer des activités pour ne pas rester dans l'oisiveté, en fait. Voilà. Donc, en gros, c'était ça. Donc, je me suis décidée quand même du jour au lendemain vraiment à passer à l'acte. Enfin, c'était une chose de réfléchir et tout ça, nanana. Et du moment où j'ai vu qu'il y avait moyen de faire quelque chose, et je pense que j'ai pris mon bien en l'espace de 3 semaines, en fait, pour vous dire.
Pour vous dire.
Donc, j'ai décidé vraiment de prendre mon billet. Bah, du coup, je savais que pour la petite, ça allait être compliqué pour elle, parce que même si elle avait l'habitude d'y aller en vacances, c'est pas la même chose d'aller en vacances
et vivre.
Et on va aller y vivre, en fait. Parce que quand tu dis qu'on va aller vivre, c'est comme si ça va être définitif, c'est comme si ça va être un aller sans retour, en fait.
C'est ça.
Et donc, j'ai dû la rassurer en lui disant que voilà, je sais ce qu'elle aime, donc je sais qu'elle aime quand il fait chaud, elle aime aller à la piscine, elle aime l'espace, elle aime jouer, tout ça. Donc, j'ai joué sur ça. Elle aime aussi beaucoup manger, genre, j'ai aussi joué sur le fait que voilà, mamie va te concocter des bons petits plats, tu seras bien, tout ça. Et puis voilà. Elle a commencé sa rentrée ici en France en septembre 2020 en CP. Donc, elle a eu ses copines, elle s'est adaptée au. C'est le primaire? Non, l'élémentaire. Ouais,
Au
l'élémentaire.
primaire,
Enfin,
ouais.
au primaire, oui. Donc, elle a pris ses marques, tout ça, tout se passait bien pour elle. Et c'était une chance aussi que cette année 2020, là, la rentrée 2020-2021 au Cameroun, ça a commencé en octobre 2020.
Oui, ça a été un peu
Donc,
décalé.
ça a été décalé. Donc, ce qui fait qu'elle a commencé ici et on est parti au Cameroun en début octobre. Donc, ce qui fait qu'à sa rentrée de là-bas, elle n'a pas pris le train en marche.
OK.
Donc, elle a commencé aussi avec les enfants de là-bas directement. Et pour la préparation encore ici, bon, elle a participé à la préparation, faire ses cours, ce dont je l'ai un peu laissé une sorte de libre arbitre, d'acheter ce qu'elle voulait, de faire une liste de ce qu'elle voulait pour partir au Cameroun, pour se sentir moins. Parce que forcément, là-bas, elle n'allait pas être sur YouTube tout le temps, parce qu'ici en France, elle a YouTube à la télé, donc elle regarde ses dessins animés et tout, chose qui n'allait pas être possible là-bas. Donc, le compromis que j'ai eu avec elle, c'était de lui acheter. Comment on appelle la Switch, des trucs comme ça. Donc voilà, donc elle a eu sa Switch. Donc elle a aussi plein de trucs qui faisaient qu'au final,
Elle a
elle n'a pas
accepté.
vu, elle a accepté en fait. Donc il y avait quand même un engouement. Et puis voilà, donc on est arrivé là-bas en octobre, on a eu quelques jours avant de commencer, avant qu'elle ne commence les cours. Et quand elle a commencé les cours, elle n'avait pas encore la tenue, tout ça. Et même là-bas, quand on a fait les courses d'acheter ses cahiers, ses livres, tout ça. Donc, elle était, bon, était enthousiaste toujours. Et
Ouais.
le premier jour d'école, c'était un peu compliqué parce que eux, là-bas, ils ont commencé d'emblée, l'école d'emblée. Il n'y avait pas l'adaptation ou le jour de la rentrée où on vient le matin, on finit l'après-midi, juste histoire de nanana. C'était, on commence tout de suite, quoi. Et du coup, elle a été. L'adaptation, ça a été compliqué au niveau du système scolaire. Parce que là, j'ai fait le choix au Cameroun de la mettre dans une école camerounaise, pas
Mais
dans une
c'était
école
ça, c'était cette question que j'allais te poser, parce que tu es partie, mais tu n'as pas fait que ça, tu l'as mis carrément dans une école typiquement camerounaise.
dans une école
Et alors,
camerounaise.
ça n'a pas été un choc
Et
pour
donc,
elle?
ça a été un choc pour elle. Même si avant déjà, quand elle avait 3 ans, elle avait commencé sa maternelle là-bas, mais elle n'a plus aucun souvenir. Bon, elle sait quand même qu'elle a déjà fréquenté là-bas, mais elle n'a aucun souvenir. Donc, ça a été un choc pour elle parce que les systèmes sont différents. Là-bas, par exemple, les maîtresses, elles écrivent la leçon au tableau et les élèves, ils recopient au cahier, sur le
OK.
cahier. Alors ici, la maîtresse, elle colle les polycopiés dans le cahier, tout ça. Donc pour elle, c'était une grande première d'écrire dans le cahier. Elle a fait du n'importe quoi au début. Elle
Mais c'est
écrivait
surtout qu'en plus
n'importe quoi.
elle est au cours préparatoire, c'est ça, non?
Un cours préparatoire. Et il faut aussi savoir qu'en France, il n'y a pas la SIL. Et au Cameroun, il y a la SIL. Donc les élèves qui étaient avec elle, ses camarades de classe, eux, ils avaient déjà fait une classe en plus qu'elle.
Ça.
Donc, du coup, forcément, elle avait un retard.
Est-ce que tu peux
Et
juste
donc.
expliquer en fait ce que c'est que la SIL? Parce que comme je pense que tous nos auditeurs ne sont pas forcément camerounais et connaissent pas.
Oui, donc la SIL, enfin, quand on finit la maternelle, il y a la grande section, on finit la maternelle, le cursus maternel. Et au Cameroun, il y a une classe avant le préparatoire, c'est la SIL. Enfin, je ne sais pas ce que ça signifie, SIL, c'est
En fait, c'est
exactement.
une
Mais
classe
en
un
tout cas,
peu
il y a une classe avant,
préparatoire.
une classe préparatoire pour préparer l'entrée à l'école primaire, en fait.
Primaire, c'est ça.
Oui. Et donc, dans cette classe-là, il y a des choses qu'on fait déjà, qui, je pense même que les élèves de CP, même en France, de CE1 en France, ne le font pas, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui fait qu'elle arrive, elle a forcément un retard par rapport aux autres élèves qui, eux, ont déjà fait cette classe-là et qui sont déjà plus ou moins adaptés et qui savent déjà plus ou moins à quoi s'attendre par rapport au système carbone, le fait que la maîtresse écrive au tableau, il faut recopier au cahier. Eux, ils l'ont déjà fait à la SIL, en fait. Donc, ça a été compliqué pour elle pendant plusieurs semaines. Elle m'a dit qu'elle voulait rentrer, que c'était dû, que ceci, que cela, nanana. Donc, et ça m'a vraiment peinée de la voir dans cette situation-là et tout. et du coup, j'ai dû être vraiment la motiver, la faire ressortir, lui dire qu'il fallait qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle devait tout simplement y arriver aussi, qu'elle n'est pas bête, qu'elle... Bref, j'ai dû être une coach motivatrice pour elle, en fait.
Wow.
Et j'ai pris des cours de répétition à l'école. Les maîtresses, à l'école, là-bas, il y avait la possibilité, il y avait des cours de répétition à l'école directement. Donc, j'ai pris des cours de répétition à l'école. Donc, après les journées d'école, elle restait encore une heure et demie avec la maîtresse et d'autres élèves, du coup. Et à partir de là, j'ai vu que ça commençait à aller. Les notes commençaient à se faire ressentir de plus. Elle travaillait de mieux en mieux. Et j'ai encore... Même si au début aussi, je lui faisais des cours de répétition à la maison, on faisait les devoirs, tout ça. Je me suis vite rendu compte que même les devoirs que je faisais avec elle, je le faisais avec le système français, quoi. Donc, voilà. Donc, et je voulais qu'elle soit vraiment à 100% dans le système camerounais, quoi. Donc, j'ai pris, pour des raisons pratiques aussi, j'ai pris un répétiteur à la maison. Donc, ce qui fait qu'elle avait les cours de répétition et à l'école et à la maison.
D'accord.
Et à partir de là, et avec un peu de motivation, je l'ai encore un peu poussée. Et maintenant, ça se passe super bien pour elle. Je pense qu'elle doit faire partie des meilleurs de sa classe aujourd'hui, quoi.
Ah, c'est super.
À un moment donné, elle a enchaîné que les 20 sur 20, tout ça.
Wow.
Et donc, je pense qu'elle fait partie des meilleurs de sa classe. Mm-hmm. Et il faut savoir que là-bas, dans son école, ils font les contrôles tous les vendredis. Donc, ce qui fait que ce qu'on a appris en semaine et ce qu'on a appris pendant les semaines précédentes, il y a un contrôle tous les vendredis. Il y a des contrôles trimestriels. Donc, c'est vraiment un rythme, en fait, qu'elle n'avait pas ici.
C'est déjà très soutenu, en fait. Hein.
Voilà. Donc, c'est comme si elle passait de la maternelle à l'université, quoi.
C'est ça.
Mais vraiment... Et du coup, quand t'es dans quelque chose tout le temps, tous les jours, au final, tu prends le rythme, en fait. Donc, ce qui fait qu'elle a pris le rythme, elle est maintenant très bien, je peux dire qu'elle est très bien adaptée. Et elle-même, elle est fière aujourd'hui du progrès parce qu'elle voit ses progrès. Quand elle voit ses premiers cahiers, elle en rigole même. Elle en rigole, vraiment, elle a énormément progressé. Elle est maintenant dans le truc. Donc, ouais. Elle-même, maintenant, elle me demande que, mais maman, quand je vais rentrer en France, ils ne font pas ça. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je ne vais pas m'ennuyer? Comment ça va se passer? Et je lui dis que, écoute.
Et c'est probable qu'elle s'ennuie. Hein, parce que moi, pour la petite histoire, j'ai aussi commencé. Mais même si c'est vrai, je n'étais pas dans un système camerounais. J'étais dans un système français au Cameroun. Mais mine de rien, je trouve que même le système français au Cameroun avance différemment que le système ici, en fait, en France. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, le niveau n'était pas le même, en fait. Pour une même classe, on avait un niveau qui était toujours un peu supérieur. Et je pense que pour le système camerounais, c'est encore au-delà, tu vois. Donc, effectivement, quand elle reviendra, ça, tu nous diras tout à l'heure si tu as prévu de revenir ici. Mais c'est sûr qu'effectivement, tu vas voir la différence, quoi. Elle aura certainement un niveau beaucoup plus élevé que le même niveau ici en France, en fait. Mais c'est bien, c'est que non, elle a
parce appris... que là-bas le système camerounais, ils ont beaucoup de matière, ils font la science, ils font l'informatique, ils font éducation civique, ils font mathématiques, ils font anglais, ils font plein de trucs. Quand tu regardes moi-même quand j'ai regardé son emploi, j'étais au début, je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il va y arriver une journée pour changer et tout ça, tu te dis waouh. Et tu te rends compte que c'est franchement, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix là parce que avec des matières comme l'éducation civique, où ils apprennent même les dialectes maternels, l'histoire du
Cameroun. Ça, c'est vraiment bien.
Ils apprennent des choses qui sont propres à la réalité du Cameroun. Mm-hmm. Je me dis peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça si c'est que je l'avais mis dans un système français.
Oui.
Et puis, l'intérêt aussi de partir au Cameroun, c'est qu'elle puisse... elle puisse s'adapter, elle puisse s'imprégner de ses origines, de ses racines, des personnes qui, eux, je pense que dans sa classe, elle a même, il n'y en a pas qui vont venir en France, il n'y en a pas qui connaissent autre chose que la ville où ils sont nés. Donc, je veux dire, c'est aussi enrichissant pour elle de rencontrer des enfants comme ça. Et voilà quoi. C'est enrichissant. Je pense que c'est vraiment une expérience vraiment que je voulais qu'elle vive.
Ouais.
Et je
Non,
pense
écoute,
que
franchement,
j'aurais pu.
c'est vraiment
Franchement,
top.
c'est top, 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 vraiment.
Ouais,
Donc, oui.
elle aura,
Donc, c'est.
vraiment beaucoup de, enfin, en tout cas, de cette expérience-là, je pense qu'elle va gagner énormément de son, déjà même dans la connaissance de son pays et de sa culture, comme tu viens de dire, et ça n'a pas de prix, quoi.
Que ce soit sur le plan scolaire, intellectuel, que ce soit sur le plan aussi au niveau de sa personnalité, je vois aussi la petite fille qu'elle devient. Et déjà que c'est une petite fille qui est très sociable, qui est très vaillante. Donc là encore, la mettre dans cette aventure-là, ça la change au niveau même de sa personnalité. Voilà. Donc elle a une ouverture d'esprit forcément. Elle saura être aussi tolérante parce qu'elle va aussi voir d'autres enfants à qui n'ont jamais mangé le McDo, qui ne connaissent pas beaucoup de choses, quoi. Non, mais parce que c'est important. Elle parle avec ses enfants, avec ses camarades. Elle raconte un peu son quotidien ici. Donc, et elle se rend bien compte qu'il y a des choses qui, pour elle, c'est normal, quoi, d'avoir, je sais pas moi, certains jouets même que eux là-bas ils connaissent pas. Donc elle se rend bien compte de la différence qu'elle a avec ses enfants. Et je pense que pour elle, ça va faire en sorte qu'elle puisse être tolérante et qu'elle puisse avoir une ouverture d'esprit. Donc
Exactement. Bah franchement,
voilà.
bravo, bravo pour ça, hein, parce que mine de rien, c'est clair que là, tu es en train de lui apporter énormément, en fait. Et c'est quelque chose un peu qui manque, tu vois, ici, en tout cas pour tous les enfants issus un peu de la diversité, qui n'ont pas forcément cette chance-là de pouvoir voir leur pays d'origine ou le pays d'origine de leurs parents, pouvoir voyager comme ça et s'imprégner un peu de, tu vois, de cette autre culture. Et c'est clair que, enfin, tu vois, c'est ce qu'on veut pour nos enfants en général, et de leur faire vivre ça, vraiment, c'est chouette. C'est vraiment important pour leur vie, en fait, en général, et même dans leur... Ouais, c'est ça. Elle va grandir avec ça, et c'est vraiment super important. Donc, bah, bravo pour ça, hein. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin de notre conversation. En tout cas, pour la dernière partie, j'aime bien demander à mes invités, en fait, s'ils ont une leçon, oui, qui retiennent, en fait, de l'expérience qu'ils me racontent. Bon, toi, c'est vrai que tu m'as raconté quand même deux expériences entre la première, donc ta grossesse, hein, et la venue de ta fille, et puis la deuxième, donc bah, ce retour au pays. Et voilà, oui, est-ce que tu as, qu'est-ce que tu retires, en fait, quelle leçon tu retires, en fait, de ces expériences-là? Et surtout, si tu as, est-ce que tu as un message, en fait, à passer, donc, aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être souhaiteraient, soit, alors, qui vivent ce que tu as vécu, donc, pour ta grossesse, d'une part, et de l'autre part, concernant ton retour au Cameroun, bah, qui souhaiteraient, en fait, sauter le pas, mais tu vois, qui sont un peu hésitants, qui ne savent pas vraiment comment faire.
Okay. Déjà, pour ce que je peux dire pour la première expérience, c'est-à-dire ma grossesse tumultueuse, je ne sais même pas quel qualificatif irait mieux à cette période compliquée et difficile de ma vie, c'est que on ne peut pas savoir comment est-ce qu'on va réagir face à l'adversité, parce que c'était vraiment l'adversité. C'est qu'il y a des épreuves en fait qui nous changent, qui nous grandissent et qui nous font découvrir en fait des facettes de nous qu'on ignore. C'est-à-dire, tu ne peux pas savoir que tu es une femme forte si c'est que tu n'as jamais été face à des situations en fait. Donc aujourd'hui, avec du recul, même par rapport à tout ce qui s'est passé avec son géniteur, avec du recul, je me dis que cette épreuve-là n'a pas été dans ma vie pour me tuer en fait. Parce que comme on dit souvent, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc c'est une épreuve qui a été très difficile pour moi, surtout à l'âge que j'avais, Et aujourd'hui, c'est ça qui a fait la femme que je suis aujourd'hui au final. Et c'est par rapport à cette histoire-là que je me suis forgée, hein, que j'ai renforcé mon caractère, et que c'est par rapport à ce que j'ai vécu que j'essaye d'éduquer ma fille, en fait, au fait qu'elle doit être une femme forte au final, parce que je n'ai pas envie qu'elle se retrouve à vivre ce que j'ai vécu. Comme je le disais au début, il n'y a aucune situation qui est éternelle. C'est-à-dire que tu peux être enceinte et que tu n'as pas tous les moyens à ta disposition pour accueillir ton enfant. Mais ça ne veut pas dire que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu seras encore dans cette même situation-là. Si tu es dans cette même situation-là, c'est parce que tu l'aurais voulu, en fait. Il ne faudrait pas que les épreuves difficiles, hein, qu'on les vive comme une fatalité. Moi, quand j'ai eu ma fille, j'étais dans un foyer de jeunes mamans. J'ai été suivie par des professionnels de la petite enfance. Aujourd'hui, je suis chez moi. Aujourd'hui, j'ai mon travail. Aujourd'hui, je peux même me permettre d'être entrepreneur. Aujourd'hui, je peux me permettre tellement de choses parce qu'à un moment donné, j'ai accepté ma situation. Et je me suis dit que, OK, aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, je ne voudrais plus être dans cette situation-là. Non seulement pour ma fille, non seulement pour moi, et aussi pour mes futurs enfants, quoi. Donc, aujourd'hui, je peux faire tous les enfants du monde. Je peux faire plusieurs enfants. J'ai un toit pour les accueillir. J'ai les finances pour m'occuper d'eux et tout ça. Donc, pour dire que... l'enfant, déjà, c'est l'enfant de la femme, en fait. Tu fais l'enfant, tu le gardes si tu le sens. Parce que les changements, même c'est que le père est avec toi, les changements vont s'opérer au niveau de ton corps, au niveau de ton psychisme, au niveau de ton métabolisme, au niveau de... Voilà. Donc, c'est d'abord pour toi que tu le fais avant de le faire pour qui que ce soit. Et il faut se dire que le papa, peu importe s'il part, s'il ne veut pas, il reviendra toujours. Peut-être pas dans l'intérêt de l'enfant, peut-être pas dans l'intérêt de la maman non plus, mais je veux dire, l'enfant, c'est quelque chose, c'est un lien à vie. Hein, c'est un lien à vie. Donc, même si c'est que l'autre papa, à ce moment donné-là, ne veut pas assumer sa responsabilité, on est deux dans l'histoire. Donc, si lui ne veut pas, vous êtes le parent. Et il ne faut pas chercher à être le père et la mère, parce qu'on ne peut pas être le père et la mère. Il faut être une mère. Et essayer au mieux de faire en sorte que l'absence de l'autre papa ne se fasse pas trop ressentir au niveau de l'enfant. Et il faut se dire que ce qu'on n'a pas connu ne peut pas nous manquer, même si éventuellement la meilleure des conditions pour accueillir un enfant, c'est que l'enfant soit éduqué avec le papa et l'enfant. Mais si c'est que ça ne peut pas se faire, on ne va pas obliger l'autre parent à assumer ses responsabilités. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et ce que je retiens de cette période-là, c'est que il faut se montrer plus forte que ce que l'on pense. En fait, il faut puiser au fond de soi. Et un enfant, si on décide de le garder, parce qu'il ne faut pas non plus... si on décide de l'enlever, c'est aussi une bonne décision. Après, on ne peut pas savoir de quoi le lendemain est fait, mais si on décide de le garder dans tous les cas, il faut que ça se passe pour le mieux. C'est à la maman d'accueillir cet enfant qui n'a rien demandé là au mieux. Il faut se dire que il y a deux choses quand tu couches avec quelqu'un sans te protéger. C'est soit c'est l'enfant, soit c'est la maladie. Donc, si c'est que tu as eu... Bon, tu dis Dieu merci.
Vu de ce point-là, franchement, on peut voir ça que c'est le positif.
Voilà. Donc, tu peux te dire que tu as eu le mieux, on va dire. C'est vrai que c'est à vie, mais la maladie aussi, c'est autre chose, quoi. Donc, il faut se dire que, écoute, c'est comme ça. La prochaine fois, tu prendras plus tes précautions. Donc, c'est un peu ça. Et pour ma deuxième expérience de partir avec ma fille au Cameroun, c'est une expérience parmi tant d'autres. Je veux dire, ça peut être aussi une expérience. Ça peut être là, j'ai décidé d'aller en Afrique. Ça peut être aussi pour des personnes qui veulent aller dans d'autres régions du monde. C'est la même chose. C'est que si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire, et il faudra oser. Il faudra oser. La chose à faire, c'est de, d'organiser ce départ-là au mieux. On ne peut pas prévoir l'imprévu, même si on prévoit, on prévoit tout, tout est bien coordonné, tout ça. Il y a toujours des éléments qui peuvent, des éléments qui peuvent apparaître comme ça qu'on n'a pas du tout prévu. Donc, il faut préparer au mieux. Et il faut se dire aussi que les enfants, ils ont une capacité d'adaptation qui dépasse même les adultes, en fait. Ils sont petits, ils s'imprègnent, en fait, facilement des choses, ils apprennent très rapidement et tout ça. Donc, sur ce point-là, ce n'est vraiment pas un souci. OK, ça va être compliqué, ça va être difficile au début, mais comme je l'ai dit, il faut suivre, il faut encourager l'enfant. Et surtout, en tant que parent, il ne faut pas montrer à l'enfant que nous aussi, on a peur, en fait, et que nous aussi, on a peur, en fait, puisque les enfants, c'est nos éponges. S'ils ressentent que nous aussi, on n'est pas très à l'aise avec la chose, bah, du coup, ça ne va pas trop le faire. Donc, il faudrait qu'on essaye de cacher au mieux notre peur, qu'on essaie de les encourager, qu'on essaie de les pousser et qu'on essaie de faire en sorte que l'adaptation se fasse au mieux pour eux, en sachant que quand eux, ils sont bien, nous aussi, on est bien.
Exactement. Voilà.
Donc, sur ce côté-là, par rapport à l'adaptation, il faudrait faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Après, c'est vrai aussi qu'il y a tout ce qui concerne les finances et tout ça. C'est un autre sujet encore. Mais comme je disais, tout ça, ça entre dans la préparation au retour. Voilà.
Et ben, donc, OK.
je dirais aux personnes qui veulent aussi vivre cette expérience-là que ça vaut le coup. Il faut oser, mais il faut juste se préparer, en fait.
Ouais, c'est complètement ça. Ok, bah écoute, hein, merci pour tous ces précieux conseils, vraiment. Et moi, ça, enfin, vraiment, tu étais, enfin, je trouve ce témoignage vraiment beau. Et en plus d'avoir osé faire ça pour ta fille, c'est vraiment, je t'assure, hein, c'est génial pour elle. En tout cas, même si vous revenez dans quelques temps en France, en fait, cette expérience-là, elle n'oubliera jamais, vraiment. Et ça fera partie vraiment d'elle, en fait, maintenant, tu vois. Elle aura eu les deux côtés, les deux cultures.
Vous êtes maintenant là, quand je ne pense même. C'est vrai que là, je m'étais dit que je me laisse le temps de sa scolarité pour essayer de voir si vraiment, moi-même, j'ai envie de m'établir là-bas. Et bon, je pense que je vais encore renouveler à la rentrée de 2021. Là, on va encore rester. Okay. Et pour vous mettre même dans la confidence, même, j'ai même envie d'aller dans un autre pays d'Afrique avec elle encore.
Oh, ah non, mais alors ça, c'est génial. Franchement, en tout cas, hâte.
Donc, j'espère que ça va. De toute façon, je pense que ça pourra que bien se passer. Tellement j'ai pris la confiance que j'ai envie de faire le tour de l'Afrique avec.
Ah, c'est génial. C'est génial. Moi, je veux te dire, la petite confidence que je te fais, c'est que mon rêve, ce serait de faire visiter tous les pays d'Afrique à mes enfants. Tu vois? Bon, pour l'instant, ils n'en ont visité qu'un. Mais franchement, j'espère que... Enfin, c'est des personnes comme toi, en fait, qui nous encouragent, sincèrement. Donc, j'espère que...
De toute façon, tu me suis sur les réseaux sociaux. Oui. Tu vas être au courant de mes aventures et de mes aventures, parce qu'il y a aussi des mésaventures, hein, faut pas croire. Quand on fait la balance, quand même, on ne regrette pas le choix. Donc, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis quelques jours, là. Et je pense que c'est faisable, en fait. Bon. Donc voilà, j'espère que j'ai donné des conseils précieux, j'espère que mon témoignage va aider plus d'une, et merci encore à toi de m'avoir donné l'opportunité de partager tout ça.
C'était vraiment avec plaisir, moi aussi j'ai pas mal appris, hein, et sincèrement, sincèrement c'est bien de pouvoir, d'ailleurs c'est ce que j'allais dire, hein, moi je te suis et c'est vrai, mais on mettra aussi du coup tes réseaux dans la barre d'infos, parce que je pense que déjà pour ton activité, hein, sur l'épanouissement féminin, je pense que beaucoup pourraient être intéressés. et c'est vrai que je trouve que finalement on en a peu qui font, très peu de personnes en fait qui font là-dessus, et ça serait intéressant.
Et justement, mon activité de consultante en épanouissement féminin, c'est par rapport à toutes ces épreuves-là que j'ai vécues, en fait, pour faire tout ce complètement affectée ou bien qui m'ont changé, qui m'ont conditionné. Mm-hmm. Et au final, je me suis dit que je vais partager mon expérience. J'ai envie d'être là pour de la vie, mes conseils sur plein de sujets. Ouais. Parce que déjà, la condition féminine, tous ces sujets-là, ça, c'est des choses qui m'interpellent vraiment. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup écouter. Le résultat de tout ça a fait en sorte que je me lance là et que j'en fasse une activité, tout simplement. Donc voilà.
Eh bien, écoute, en tout cas, on a hâte de continuer de te suivre, aussi bien dans tes aventures que dans cette activité que tu fais. Et encore une fois, merci pour ta participation à ce podcast. Et, ok, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi réagir en nous laissant un petit commentaire et partager autour de vous. C'est toujours un plaisir de lire vos retours. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je vous invite dès à présent à me suivre sur ma page Instagram dédiée au podcast @moine.na. Et si vous voulez continuer de lire mes articles sur le blog, je vous invite à le visiter au www.moina.com. Enfin, si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail suivante moina.leblog@gmail.com.